Duel reçoit Feder.
Aujourd'hui, c'est un artiste qui ne vous est pas totalement étranger. Pourtant, son dernier single s'appelle Strangers. Le DJ et producteur Feder se téléporte dans les années 90 avec un single frais et solaire. Ce soir, c'est mon invité de la Happy Hour. Bonsoir Adrien, comment tu vas ?
Bien et toi ?
Bah écoute, très bien. Je suis ravi de t'accueillir. Ça faisait trop longtemps. Et c'est en tous les cas un plaisir d'entendre ce Strangers qui nous emmène sur une plage californienne en plein milieu des années 90. Voilà l'image qu'on peut en avoir en l'écoutant.
Ça, tu peux, c'est top.
Quelles sont tes inspirations ? Quelles ont été plutôt tes inspirations ? Qu'est-ce qui t'a conduit à ce résultat final ?
Alors en fait, surtout, c'est ces derniers temps, tu vois, je faisais pas mal de house avec les potes, moi de mon côté, même pour mes titres, etc. Et en fait, j'ai eu un moment où j'avais envie de littéralement faire un virage et je savais pas de quelle manière. J'avais envie de, tu vois, de faire un peu un truc frais. Et j'entends les derniers titres et tout, tu vois, entre autres Justin Bieber, etc., The Weeknd, tout ça. Et effectivement, j'ai commencé à m'amuser sur ce délire-là. Et je m'y suis pris une passion et j'ai commencé à te dérouler du titre. Genre vraiment, je pense que niveau créatif, pour un artiste, c'est pas mal d'essayer de faire une rupture un petit peu avec ce que tu fais du moment pour essayer de te donner un peu un élan d'air frais,
et,
tu vois.
Et de revisiter aussi certains moments qu'on n'a peut-être pas à l'époque.
Exactement.
Kiffer,
tu le réinterprètes.
Et tu les revisites et tu les réinterprètes. Alors, une house californienne, hein, je le disais, très solaire, assez éloignée de tes précédentes productions. Même si on compare par exemple avec Goodbye.
Même à la plage, tu l'écoutes celle-ci.
Mais non, mais celui-là, je l'adore. Évidemment, je suis pas rationnel avec ce morceau, je l'adore. Est-ce que toi, là vraiment, ça veut dire quoi, Adrien ? T'es parti sur de nouvelles envies, de nouveaux. Là, il y a vraiment ce titre va être une espèce de nouveau départ avec peut-être un projet, un EP, voire un album. En tous les cas, une collection de morceaux qui seront dans cette esthétique musicale.
C'est exactement ça. C'est une bonne question.
Merci de l'avoir posé.
Merci de l'avoir posé. Parce que effectivement, je pense que pour les prochains mois, là, il va y avoir pas mal de choses autour de ça. Je vais instaurer d'autres choses, d'autres produits autour de cette musique, dans le sens où je pense qu'il y a sûrement un EP ou album qui va être en préparation autour de ce style musical. Les prochaines musiques vont être autour de ce style et évidemment j'ai l'intention de créer normalement si tout se passe bien, un jeu vidéo autour de ça. Il y a toute une communication
autour de cette esthétique,
ouais,
et autour
de
cette esthétique, d'accord.
Voilà, exactement. Et tout ça en plus c'est venu, tu sais quoi, c'est venu nouvel an quand j'ai eu le Covid. T'es isolé donc pendant 7 jours, donc faut forcément que tu fasses quelque chose pendant les 7 jours.
Bien sûr.
Et moi j'avais tous les potes qui disent bah moi j'ai regardé des séries et en fait j'ai commencé à bosser. Donc j'ai commencé à me faire des formations, etc. Des trucs que j'avais pas le temps de faire, apprendre la 3D, des trucs. Mais tout ça c'est chronophage. Et le truc, je me suis dit ok, bon, j'avais envie de créer un jeu vidéo, mais en fait c'est super long à faire. Donc j'ai commencé à mettre sur Instagram, ok, quelqu'un s'est créé un jeu vidéo. Et j'ai des potes qui m'ont répondu en disant mais nous on a une boîte et tout, viens on bosse ensemble. Ok les gars, j'ai une idée, c'est ça. Et en fait c'est parti de ce truc là. Le plus, c'est que un peu avant, donc j'avais fait cette musique. Et en fait c'est vrai que tout se connecte. Et là c'est pour ça que je trouve qu'il y a un bel élan sur cette année, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses autour de cette musique.
Et alors du coup ce jeu vidéo et cette musique, quelque part la musique c'est presque la bande son de ce jeu vidéo.
C'est
en train
une partie
de
la bande son, exactement.
Wow.
Même le clip, là demain on tourne le clip en mode express et tout. Tout ça, ça va à 100 à l'heure en ce moment. C'est connecté aussi, tu vois.
C'est quand même marrant parce que tu restes un artiste qui, enfin pour les médias souvent, est difficile à catégoriser ou à classifier, parce que quelque part tu es toujours là où on ne t'attend pas. C'est vrai que
je vous embête, hein.
Non, nous on adore ça sur FG. Je pense que pour les médias, j'allais dire plus traditionnels, parce que nous justement, les artistes un peu disruptifs qui cassent les codes, on adore ça, et c'est justement ce qu'on trouve intéressant, parce que c'est plusieurs facettes, tu vois, de leur personnalité qu'ils expriment. Mais quel rapport tu as avec ta musique, c'est-à-dire quelles émotions tu souhaites propager? Est-ce que t'es plutôt du style bestial quand t'es en studio, c'est-à-dire tu sors les trucs comme ça de manière très spontanée, ou au contraire très mentale, tu les prépares, tu les prémédites entre guillemets?
Alors pour reprendre tes mots, je pense qu'au début j'étais très bestial, c'est-à-dire que je faisais quelque chose sur le moment. Là aujourd'hui, c'est très récent.
T'es
et d'ailleurs
mental.
Même mon équipe, elle est surprise. Putain, écoute, c'est bien organisé tout ça.
Ouais.
Mais j'ai envie de tester pour ce projet-là. Tu vois, je pense que ça s'y prête. Et puis surtout, c'est que on en a pas marre un peu en ce moment. Tu vois, t'as pas envie du changement. Donc je veux dire, moi mon changement, il est là aujourd'hui. Tout ce qu'on a appris ces derniers temps, les frustrations, etc. C'est pour ça, je pense que j'ai eu le temps de réfléchir à des choses. Et on est toujours à 100 à l'heure. Et je pense que tu sais de quoi je parle. Là, j'ai eu un peu
pas
de temps
du tout.
Non mais tu vois, je veux dire, à un moment donné là, j'ai eu peut-être 2 minutes pour réfléchir. Bah peut-être ça donne des idées, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé.
Happy Hour FG ce soir avec Feder qui vient nous présenter son tout nouveau single que vous venez d'écouter, Strangers. Et alors là, il faut le dire, Adrien, il y a un fil conducteur dans ta discographie. Ce sont toujours les voix, toujours belles, toujours avec qui apporte vraiment quelque chose qui sublime la production. Alors pour ce Strangers, Stranger, j'imagine que c'était là aussi une question primordiale et sine qua non.
Bah écoute, alors pour la voix, ça a été assez évident. J'ai fait venir deux potes d'Angleterre, Jordan Shaw et Ryan, en fait, qui sont des mecs avec qui j'adore travailler. C'est des super top liners. Alors pour que les gens comprennent top liners, en fait, c'est des gens qui t'aident à créer des mélodies de voix. Tu vois, moi, je suis beaucoup à la production, et c'est vrai que pour ces moments, quand il s'agit d'écrire des paroles et des lignes de mélodies de voix, je trouve que c'est le métier s'est développé ces dernières années, justement, et Jordan et Ryan font partie un peu, tu vois, de l'élite là-dessus. Et donc on s'est posé pendant 3 jours, et en fait on a fait track sur track, effectivement, et celle-ci c'était la première qui a été sortie, et c'est pour ça que symboliquement je voulais que ça soit la première.
Ce sera donc le premier single, mais donc ça augure déjà d'un certain nombre de tracks qui sont plus ou moins déjà prêts ou plus ou moins déjà dans tes bécanes.
Des
quoi.
Pépites qui sont dans l'ordi.
Alors, ton single, il tombe à point nommé, il faut le dire. Ça sera donc la réouverture des clubs à partir de demain. J'imagine que tu n'as qu'une seule hâte, évidemment, c'est de pouvoir retrouver le chemin et la route des clubs et des DJ booths.
Bah, le 18, je fais une soirée donc au Bridge.
Pour donc le à Paris, Love, qui est l'ancien
voilà,
showcase.
Exactement. Ouais. Et donc voilà, la réouverture, nous on l'a fait de cette manière-là. Voilà.
Alors, à propos du club d'ailleurs, ils sont pour beaucoup de DJ utiles pour tester, pour nourrir leur musique. Depuis, évidemment, c'est compliqué. Est-ce que pour toi, ça a eu une incidence justement sur ta musique? Parce que souvent, les DJ disent qu'ils ont un dialogue direct avec leur public pour tester les morceaux, pour notamment avec aussi des espèces de boucles qu'ils vont faire et qu'ils vont tester. Est-ce que toi, ça a plus de club? Donc, comment t'as changé ta façon de produire?
Bah déjà, le truc, c'est qu'au mois de décembre, tu reçois cette nouvelle concernant le fait qu'on referme les clubs. Moi, j'allais sortir un titre avec Damien Hendrix, que tu connais très bien, qui s'appelle Reality. On n'a même pas pu savoir l'effet que ça faisait sur ce.
Mais c'est ça.
C'est ça le problème. Donc, oui, effectivement, ça a des répercussions énormes. Parce que même le titre Reality, qui est un son qui est très club, il n'a pas pu être testé, donc on n'a même pas pu faire vraiment de la promo dessus. Donc là, pour moi, ça va être limite la première fois que je vais pouvoir un petit peu officiellement l'annoncer, d'autant plus qu'il y a Strangers là-dessus. Ça a des répercussions telles que, regarde, je fais Strangers, qui n'est pas un son house, parce que tu ne mets pas de club pendant 3 mois. Bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah, je te fais pas de son club. Je te fais un son qui a rien à voir, qui est plus années 80, qui est dans la vibe du moment et tout. On est hyper influencé en tant qu'artiste de toute manière. Tu nous mets un mood un petit peu où t'as envie d'être dans la joie, tu feras une track dans ce délire-là, tu vois.
Alors c'est intéressant parce qu'en plus, toi, c'est vrai que ces derniers temps, on t'a peu vu. Est-ce que t'es aussi dans cette optique justement de travailler par exemple quand t'as une très très forte inspiration, comme tu le disais là, sur 2, 3, 4 morceaux que tu vas produire, et puis ensuite repasser plus en mode je vais en club, et puis je me nourris, et puis quand j'ai envie de reprendre quelque chose, qui sera. Ah, c'est par cycle en fait.
C'est exactement comme ça, c'est sous forme d'influence forcément, parce que tu mettrais une grosse période de club, je pense que forcément j'arriverai au studio, je me dirais, attends, là j'ai testé un truc, c'est pas mal, mais je vais un peu plus l'étoffer. Donc ça joue. Là, on est sur un contexte effectivement qui est très pop dans la musique que j'ai faite, et je l'assume vraiment complètement, parce que ce que je disais même à ma chérie ou même aux équipes et tout, tu vois, je suis étonné moi-même d'avoir fait ça, mais j'en suis très très fier, parce que qu'est-ce qui sort de moi quand je veux faire de la pop? Ben, ça donne ça et c'est cool. Maintenant, avec les clubs qui vont réouvrir, etc., ben, ça va continuer. Je pense que tu as ce projet qui est en place, qui va être pendant un moment, et effectivement, tu serais pas surpris que pendant l'année, il y ait aussi quelques trucs un peu house qui sortent.
Novembre 2017, Antoine Baduel reçoit Fakir.
Et ce soir, mon invité, c'est le producteur français Fakir. Une fenêtre sur le monde, ça fait un peu cliché de dire ça, mais pourtant c'est bien l'image qui s'impose à l'écoute de la musique de Fakir. Le français originaire de Caen va puiser dans le lointain pour nourrir son électro-ethnique, métissé, mystique. Vous verrez les adjectifs qui viennent assez facilement en écoutant sa musique. Fakir, qui vient de sortir un tout nouvel EP qui s'appelle Karma Prana, et il est à mes côtés. Bonsoir Fakir, bienvenue sur FG.
Bonsoir.
Alors Théo, puisque Fakir, a.k.a. Théo, comme on dit, je le disais, tu sors cette EP, 5 titres, baptisé Karma Prana. Ça nous renvoie à la notion de karma. Est-ce que c'est justement pour mieux dire que tu signes 5 titres plutôt mystiques, et que tu voulais finalement emprunter cette musique aussi de mystère et d'onde positive?
Mais complètement, c'est exactement ça. T'as complètement cerné le truc. C'était vraiment justement de délivrer ce message de... Voilà, la vie nous renvoie ce qu'on dégage en tant qu'être humain, et moi c'est ce que j'ai découvert, appris et expérimenté cette année, et en fait j'ai essayé de le mettre en musique du mieux que je pouvais, quoi.
Alors ce qui est intéressant, c'est que cette EP montre à quel point ta démarche artistique et musicale est atypique. Le son, il est marqué par les voyages, par le monde. Il y a quelque chose de très onirique, hein, quand on écoute tes productions. Est-ce que cette touche ethnique apportée à l'électro, qui a fait ton succès d'ailleurs, elle est elle s'exprime comment? Tu pars de sample quand tu composes ta musique? Tu composes en essayant d'exprimer ça? Comment ça se passe?
En fait, j'ai pas vraiment de recette. Des fois, je pars de sample, des fois, je pars juste d'émotions qui vont générer une image et de laquelle je vais m'inspirer en fait pour faire mes productions. Sinon, la plupart du temps, je me pose quand même derrière mon clavier, puis je vois ce qui se passe au bout de mes doigts. Et puis,
mais c'est pas des choses que tu es allé chercher aux quatre coins du monde, je veux dire?
Non, pas vraiment. Finalement, je m'en réfère plus à mon imagination et puis à ce que je vis et puis à mon histoire d'amour avec ma copine, avec mes potes, avec ma soeur. Enfin, il y a plein de sources d'inspiration dans la vie de tous les jours, quoi.
Alors, pas mal d'artistes qui ont voyagé, je pense par exemple à Jane, dont on parlera tout à l'heure, ramènent dans leur bagage des souvenirs, des sons, des chants qui nourrissent leur musique. Comment elle est née chez toi, cette électro si personnelle?
Bah écoute, en fait, je pense que ça vient de pas mal de choses. Déjà de mes parents en premier lieu, parce qu'ils m'ont fait écouter de la world music très très tôt. Ils sont professeurs de musique, tout ça, donc ils avaient une culture un petit peu, poussée à ce niveau-là. Du coup, j'ai été biberonné à la world music, au jazz, à la musique classique, etc. Puis j'ai continué à expérimenter là-dedans. Puis c'est une musique qui m'a toujours touché. Du coup, quand j'ai commencé à faire de l'électro, pour moi, ça est devenu naturellement, en fait, je suis allé puiser un peu là-dedans, dans mes racines, quoi.
Alors, ce que j'aime dans ta musique, c'est qu'elle épouse aussi les émotions d'une journée. Joyeuse, nostalgique, amoureuse, triste, un peu mélancolique parfois. J'ai le sentiment qu'avec cette EP, t'as puisé aussi dans une approche festive, dansante, souriante. Ça colle à ton humeur en ce moment.
Ouais, carrément, carrément. En vrai, c'est un peu la belle vie.
Et c'était l'état d'esprit dans lequel t'étais quand t'as produit cette EP, c'est-à-dire quelque chose un peu aussi d'un peu léger, d'un peu d'un peu frivole,
de très apaisé en fait. Surtout, finalement, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc de quête un peu de soi-même, de développement personnel dans laquelle, enfin, je parle en fait dans le titre de cette EP, quoi, Karma Prana. C'est un peu la quête d'une sorte de paix intérieure, et puis j'ai l'impression que c'est un peu la quête d'une vie, et puis j'ai l'impression d'avoir fait un petit pas en plus en sortant cette EP, quoi.
Alors il y a des artistes avec lesquels t'es très proche, amis, Superpose, Tilacine, et ils ont un peu une démarche, en tous les cas intellectuelle, assez proche de la tienne, tu vois, d'aller peut-être puiser aussi dans d'autres sphères, d'autres univers, d'autres sources. Chacun a son univers, mais en même temps, finalement, une philosophie, une approche soluble. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu fonctionnes, avec un imaginaire tourné comme ça vers l'Asie, le côté
Ouais, carrément, avec un imaginaire qui est tourné vers finalement vers pas mal de choses et nourri par des choses du quotidien et des choses finalement telles que mon histoire d'amour, telles que ma vie maintenant en Suisse à la campagne, dans mes montagnes cachées. Et en fait, je me nourris de tout ça pour créer une sorte de bulle d'imaginaire à part. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a fait partir de Paris, parce que Paris, qui a beau être une très belle ville, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu, au bout d'un moment, sapé l'inspiration. Finalement, j'étais un peu étouffé dans tous ces bâtiments, quoi.
Ah ouais. Et ouais. Alors, t'avais besoin d'apaisement, en fait.
Ouais, j'avais besoin de calme.
Et alors, parce qu'aujourd'hui, un producteur, il est bon quand il vibre. Est-ce que c'est ce calme, cette sérénité que la Suisse t'apporte, qui justement t'en fait vibrer et...
Ouais, carrément. Ouais. En fait, ça permet de je sais pas, je saurais pas comment dire ça autrement, mais d'élargir ma musique. Et j'avais besoin d'espace, quoi.
Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de tout ça, bon, il y a le vibe, ok, mais il y a une histoire qui se raconte. Il y a une histoire qui se déroule. Il y a des ambiances qui se créent.
Ouais, bah ouais, carrément. Bah ça, c'est vraiment des choses que je crée au fur et à mesure. Et finalement, généralement, c'est des surprises. Je suis moi-même, en fait, surpris au bout d'un moment quand j'ai fini ma prod et je la réécoute et je me dis, ah, mais tiens, c'est marrant, l'ambiance qui se dégage, elle est hyper. Je sais pas, par exemple, pour Karma Prana, qui est le premier morceau que j'ai composé de cette EP, j'ai repris ma guitare un peu par accident parce qu'elle traînait dans un coin de ma chambre, et puis j'ai repris ma gratte et puis j'ai joué un petit peu. Et puis en fait, l'ambiance et le timbre a apporté un truc à la chanson complètement unique, et du coup j'en ai mis partout après parce que je trouvais ça trop bien. Mais c'est souvent des espèces d'accidents comme ça.
Est-ce que ces accidents, est-ce que cette façon de produire, tu nous parles de Paris, ok, t'as quitté de la Suisse aujourd'hui, tu l'avais déjà quand t'étais à Caen? Tu l'as toujours eu?
Ouais, je l'ai toujours eu, mais je pense que j'assumais moins. J'avais peut-être moins confiance en moi, moins confiance en mon envie de liberté, de grands espaces, etc. Il y avait cette pression aussi de se dire, bah voilà, Paris, c'est un peu la ville où tout se passe, où tous les gens vont pour commencer à faire écouter leur musique, à montrer leur art. Et en fait, j'ai réussi à m'émanciper de ce truc-là, et aujourd'hui, j'en suis plutôt content. Du coup, ouais, de pouvoir me dire, allez.
C'est mais bon, t'as toujours eu cette lecture de la musique.
Ouais.
Alors, t'es le genre d'artiste aussi qu'on adore écouter. comme ça chez soi en mode cocooning, mais évidemment voir sur scène, parce qu'il y a quelque chose de très c'est spectaculaire, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de fort quand on te voit en live. T'es pas DJ, t'es vraiment dans une compo quand t'es sur scène.
Ouais, bah il y a vraiment ce truc de, finalement j'ai pas la culture club et la culture hip hop, du coup le taf de producteur, en fait pour moi quand je l'ai transposé à la scène, c'est devenu un taf de rockstar en fait sur scène, et je voulais faire le show, faire quelque chose qui tabassait un petit peu, puis qu'on voyait un peu les gens dans un que ce soit vraiment un concert avec de l'énergie quoi. Du coup je finis en sueur et c'est cool.
Et là tu vas pousser l'esprit, les valeurs de cette EP encore plus loin, en amenant par exemple des instruments orientaux ou exotiques sur scène, des choses comme ça, tu y penses?
Alors j'y pense, j'aimerais beaucoup, c'est énormément de logistique, du coup je sais pas si j'arriverai à faire ça un jour, mais en tout cas moi je vais reprendre des instruments et commencer à rejouer aussi sur scène, et je pense que je vais réussir peut-être à transmettre autre chose que juste taper sur des carrés quoi.
Janvier 2021.
Antoine Baduel reçoit
Offenbach.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le duo français Offenbach. À chaque fois, ils font mouche, à chaque fois, leur titre devient un tube. Le duo Offenbach n'est pas très fair-play car il connaît parfaitement la recette du succès de Be Mine. A Head and Shoulders, Knees and Toes. Les voici de retour avec un tout nouveau single qui s'appelle Wasted Love. Et toujours ce don à faire cette espèce de chorégraphie sur leur nouveau single dès qu'ils arrivent, avec un accompagnement de leur tête et de leurs bras. C'est mes mains ont la parole.
C'est bon ça.
C'est incroyable. Ils sont mes invités ce soir. Dorian, César, bonne année à vous et bienvenue sur FG.
Bonne année.
Bonne année Antoine.
Alors quel bonheur de vous retrouver avec ce nouveau single, un titre qui vient après une année folle pour vous, Head, Shoulders, Knees and Toes, qui a été un véritable triomphe. Je pense qu'on peut le dire, ça a été un des hits de cet été 2020. Est-ce que vous êtes mis la pression pour Wasted Love? Alors au contraire, le confinement vous a inspiré musicalement?
Alors je pense que le confinement nous a beaucoup aidé à faire certains choix sur la musique, peut-être aussi se laisser aller, puisqu'on était très enfermés dans quelque chose de rock, électro, vraiment là-dedans. Et en fait, pendant le confinement, on s'est dit, on est DJ producteur. Et la force qu'on a, c'est qu'on peut faire tous les styles qu'on veut, et on ne nous le reprochera jamais. Par exemple, DJ Snake, il peut très bien faire de la tech house et le lendemain faire du reggaeton. On lui en voudra pas, c'est son métier, les producteurs. Et je pense que le confinement nous a permis de faire ça et d'explorer de nouveaux horizons.
Ça a libéré quelque part un peu vos tabous, tout au moins ce qu'on a un peu tendance à faire, c'est-à-dire on joue beaucoup en soirée, donc finalement on s'enferme un petit peu dans un style qu'on a joué en soirée, puis finalement on veut faire le follow-up, et on reste un peu enfermé.
Exactement.
C'est ça hein. Alors disons-le clairement, pour celles et ceux qui aiment Offenbach ou pour Catchy ou pour Party, ce nouveau titre, il est un peu beaucoup plus sombre quand même, disons-le. Oui,
il est.
Oui, il y a tonton Yannick qui ne voulait pas le passer tellement c'est sombre.
C'est mélancolique. C'est pas si sombre que ça, c'est mélancolique.
Voilà, mais heureusement, on a quand même cet accompagnement maintenant. Voilà, un accompagnement vocal, il faut le dire maintenant. Alors pourquoi ce choix de sonorité quand on vous connaissait, vous toujours si solaire, joyeux, dansant, est-ce que vous étiez un petit peu plus mélancolique en le faisant, justement, le morceau?
Je pense qu'on était un peu plus mélancolique aussi par la période. Et on avait un truc aussi, nous on a toujours écouté beaucoup de pop et on voulait absolument une chanson à jouer justement quand ça reprendra, qui soit un peu plus émotive et qui puisse justement procurer cette sorte de mélancolie et en même temps de nostalgie au public.
Alors à chacune de vos productions, un rituel, c'est-à-dire un gimmick que les gens peuvent retenir, chanter, danser, même pour le Head, Shoulders, Knees and Toes, j'allais dire même surtout pour ce titre. Là, pour ce nouveau single, on est quand même sur autre chose, même si on a quand même ce petit côté, ce petit gimmick, j'ai quand même l'impression que vous cherchiez un morceau peut-être un peu moins adolescent, un peu moins quelque part pop aussi, et quelque part quelque chose de plus mature, voilà, de plus posé quand même.
C'est un peu notre but, c'est de grandir aussi musicalement et de faire des grosses productions, de passer un peu à quelque chose de plus international aussi, puisqu'avant on était très peut-être parisien, français centré, très French touch centré, et en fait on aimerait faire de la musique pour le monde entier, c'est ce qu'on aime, voyager, et je pense qu'avec des chansons comme Wasted Love, on peut s'adresser à un public encore plus large et partager avec beaucoup plus de gens, et c'est notre essence, ça, on vit pour ça en fait.
Mars 2018.
Antoine Baduel reçoit
Klingand.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le DJ producteur français Klingand. Vous l'avez découvert sur Radio FG grâce à Hakim Akli. C'était il y a déjà 5 ans avec les singles Jubel. Mais il y a eu ensuite Somewhere New ou encore Pump Top. Et il revient avec Rebel Yell, son tout nouveau single. Terriblement efficace, cette musique de Klingand. Il est champion toute catégorie d'une house tropicale très vocale. Son nouveau single s'appelle Rebel Yell. Il a été produit avec l'artiste jamaïcain Chris Shane. Il aime toujours nous faire danser, chanter, mais cette fois-ci, il aime aussi donner du sens à ses ses chansons. Klingant, c'est mon invité de l'Happy Hour sur Radio FG ce soir. Bonsoir mon ami, comment vas-tu?
Très bien, merci.
Toujours un plaisir hein, de t'accueillir sur FG. T'es chez toi ici depuis 5 ans. Évidemment, nous, Jubel, Punga, c'est les morceaux qu'on paye de secret pour nous. Et tu sors donc après le single Hope for Tomorrow, ce nouveau single qui s'appelle Rebel Yell. J'ai lu que tu disais vouloir faire des chansons qui signifient quelque chose. Ça signifie quoi alors? C'est que t'es plus exigeant, plus regardant qu'avant sur les textes, plus vigilant aussi sur le message que tu vas véhiculer?
Ouais, j'aime bien, c'est vrai que si je peux à choisir, je pourrais faire une chanson qui a du sens, qui est un peu plus profonde, et c'est aussi la maturité qui fait ça, je sais pas. C'est vrai que si on regarde les derniers morceaux que j'ai sortis, ils sont toujours un peu plus Hope for Tomorrow, et celui-ci, c'est vrai que les morceaux sont peut-être un peu plus forts. Donc peut-être que c'est la voie que je vais suivre, je sais pas.
Alors justement, Hope for Tomorrow, le message, il était clair. Le nouveau single, cette fois-ci, avec Rebel Yell, qu'est-ce que tu voulais exprimer?
C'est vraiment un cri de protestation, quoi.
Ouais, c'est un cri rebelle, quand même, en traduction. Alors qu'est-ce que tu voulais exprimer en protestation?
Non, c'était un tout en fait. C'était l'histoire surtout de Christian qui avait ce morceau qu'il avait écrit pour un de ses amis et qui moi m'avait touché. Du coup, qui n'est pas forcément mon histoire en ce fait, mais que j'ai voulu à tout prix produire. Et voilà, je pense qu'on a sorti ce morceau qui est. Je pense qu'il en était hyper content et moi aussi.
Ce nouveau single, King On, ce n'est pas qu'un message, c'est un featuring. En l'occurrence, tu nous le disais avec Chris Shane, un artiste jamaïcain. Le morceau lui-même, il est emprunté de sonorités jamaïcaines. Il y a un petit côté d'ailleurs qui nous rappelle cette époque caribéenne qu'on avait connue avec des artistes comme Yves Larocque, Rise Up, Bob Sinclair, ouais, tout vrai. Ça. Et c'est drôle parce que là, pour le coup, c'est emprunté d'House Tropical. Donc, c'est vraiment en feat complet, j'allais dire. C'est un univers qui t'a fait découvrir ou alors tu voulais l'explorer toi dans tes productions?
Non, c'est plus son vocal qui est tombé à pic en fait, je pense. Et même, il a même aussi une voix un peu. En studio, quand je l'entends chanter, il a vraiment une petite voix, même à la Michael Jackson sur certaines notes. Donc, non, c'était, je pense que c'était un hasard qui met un bon hasard.
Losing You, Somewhere New, Rebel Yell, autant de singles qui possèdent, je dirais, les traceurs, les marqueurs qui ont fait ton succès. Quelle est la ligne directrice maintenant que tu souhaites adopter quand tu es en production? J'ai parfois le sentiment que la voix, le vocal sont un pilier essentiel hein, maintenant ton travail, mais beaucoup moins dans l'instru. Hein.
De plus en plus encore. Ouais, je pense que moi, je fais des chansons en fait. C'est clairement ça. J'aime bien quand ça chante dans tout le morceau et que ça raconte vraiment une histoire. Je préfère qu'il y ait plus qu'un couplet. Quoi.
Mars 2022. Antoine Baduel reçoit Mickaël Canitro.
Happy Hour FG, ce soir j'ai le plaisir de recevoir mon ami Mickaël Canitro. Il était là à votre réveillon du nouvel an. Il donnera prochainement un spectacle son et lumière en plein cœur de Paris. Il vient de sortir un nouveau single. Mickaël Canitro passe à la vitesse supérieure. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi et que ce garçon n'est pas oisif. Son horizon, une mélodique techno envoûtante, belle, attachante, esthétique, au service des plus beaux monuments français. Avouez que c'est stylé comme offre artistique. Avouons qu'on est fiers que Mickaël Canitro, qui a d'ailleurs commencé sa carrière chez nous il y a près de 15 ans, je crois déjà maintenant, parce que le temps passe vite, surtout quand il sort un nouveau single aussi beau que Contemplation. Mickaël Canitro, mon invité ce soir sur FG. Bonsoir mon ami, bonsoir, comment tu vas?
Très bien.
Alors te voilà de retour avec un single tout chaud, Contemplation, qu'on vient de s'écouter. Il est chaud car il vient de sortir, chaud parce que tu reviens du Brésil. c'est la vue de Copacabana ou plutôt l'hiver froid parisien qui t'a donné envie de contempler, de raconter ce morceau?
Oui, c'est ça. Bah, c'est surtout, en tout cas, l'expérience monumentale qui a inspiré ce morceau, et je l'ai créé avec un ami à moi aussi qui s'appelle Vielki, qui est un super producteur DJ marseillais et qui vit à Paris. Et on a conçu ce titre ensemble, spécialement taillé pour Monumental dans un premier temps. Et puis ensuite, on a dit, allez, on va le sortir aussi.
Alors, j'ai bien dit raconter ce morceau, parce que désormais, la musique, elle se lit, elle se pense. En tous les cas, ta musique, non pas qu'elle était écervelée avant, loin de moi l'idée de dire ça, mais elle n'appelait pas les mêmes émotions, en tous les cas. Les mêmes évasions non plus, d'ailleurs. Il y a un côté très onirique maintenant dans ta manière de concevoir la musique. Et justement, tes voyages d'aujourd'hui, est-ce qu'ils te donnent une nouvelle lecture de ta musique? Genre, par exemple, est-ce que partir au Brésil, ça te donne de nouvelles envies de produire?
Oui, le Brésil, bien évidemment.
Ou de nouvelles inspirations, d'ailleurs.
Bien évidemment, les voyages ont toujours été une source d'inspiration. Et puis, même au-delà, on va dire, des voyages traditionnels, le voyage que je conçois et que je vis à travers Monumental est aussi une source d'inspiration, de voyager à travers le temps, de voyager à travers les époques, les styles d'architecture. Tout ça, effectivement, vient me nourrir. Et ce titre Contemplation, c'est clairement un des hymnes, en tout cas, de Monumental. Et ce que voilà, cette tournée à travers les plus beaux monuments de France m'a aussi inspiré.
Alors ce morceau, Contemplation, il porte bien son nom. On y retrouve une profondeur, une puissance, un peu à la Kölsch, hein, pour ceux qui ont la référence de ce DJ danois, connu pour ses productions très instrumentales, techno, mais en même temps toujours onirique. Est-ce que cette opposition, c'est ça que tu recherches entre désormais une profondeur mélodique, mais aussi une certaine dureté ?
Sur ce titre-là, oui, clairement, on cherchait en tout cas avec Wielki à faire un titre qui soit en même temps, qui nous fasse voyager et en même temps qui nous transporte et qui nous transporte avec une certaine puissance. Et c'est vrai que tout au long, le titre va nous amener justement vers cet état-là. On commence à voyager dans un premier temps et puis on finit effectivement avec une certaine intensité. Et voilà, ce titre-là, c'est clairement un titre qui est aussi taillé pour les clubs et les festivals.
Alors, j'ai parlé de dureté, mais c'est une musique, au contraire, qui est un point d'équilibre entre underground et douceur aussi. Hein, il faut le dire, c'est un changement pour celui qui a longtemps fait de la house music quelque part. Qu'est-ce qui t'a incité à changer et à évoluer d'une manière aussi, j'allais dire, pas brutale, mais en tous les cas, du jour au lendemain, vraiment radicale en termes de production, parce que ça change tout dans ta manière de bosser quand même.
Ça change beaucoup de choses et je pense que si on doit retenir un des points positifs, en tout cas de la période Covid entre guillemets, c'est vraiment cette finalement sortir un petit peu des formats et me laisser inspirer par diverses choses. Et c'est vrai que du coup je me fixe plus aucune limite dans ma musique et c'est ça qui m'a amené des titres comme Contemplation. Ça ne veut pas dire que je ne referai pas de la house pour autant, parce que c'est une musique aussi qui m'est chère.
Puis c'est, bien sûr, tu as un lien affectif, et puis avec ton public aussi.
Avec mon public, et puis c'est vrai que c'est une musique en tout cas qui se consomme, on va dire, différemment. La house, c'est plus un côté club. Le côté contemplation, les choses de plus mélodiques aussi m'ont clairement été inspirées plutôt par l'expérience monumentale, qui est une expérience visuelle. La musique colle parfaitement aux images, aux lieux, aux monuments. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu... En tout cas, toute cette partie-là monumentale. Et les prochains titres seront clairement, on va dire, totalement débridés aussi dans cette volonté d'explorer différentes pistes de la musique électronique.
Alors, on va s'écouter justement Falling, autre titre hein, qui fait partie de cette collection, de ce projet global, j'allais dire. Michael Canitro, donc avec Falling, un titre d'ailleurs qui est beaucoup, beaucoup playlisté dans le Starter FG d'Aki Makli et en journée sur FG. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la Happy Hour des stars, des mix live, des cadeaux. Illustration parfaite de cette partie de la scène française qui se renouvelle sur des sonorités très oniriques, parfois instrumentales. Une scène émergente qui en dit autant sur nos goûts que sur l'envie de producteurs français de passer peut-être à autre chose, d'expérimenter, d'explorer d'autres esthétiques. De toi à Ento, de Waracles à Tilacine, en passant par Fakir, Molécule. Est-ce que tu crois que la scène française est en train de se réinventer autour de sons, pas forcément club ni dansant, mais plus mature, j'allais dire?
Je pense qu'elle l'a toujours été, mais la période en tout cas qu'on a vécue a forcément, on va dire forcé entre guillemets, les artistes à sortir de leur zone de confort et à explorer des nouvelles pistes. Et pour moi en tout cas, la scène française a toujours été d'une richesse incroyable avec des artistes exceptionnels, donc c'est pas surprenant, mais je pense que voilà, on peut être fier en tout cas de la scène française pendant cette période où c'était pas facile du tout, il y avait plus de job, et au final il y a quand même des pépites qui sortent musicalement de tous les côtés. Sans format, des explorations, des voilà, c'est en tout cas le sens dans lequel j'aime bien voir cette scène, c'est vraiment défricher et aller explorer des nouvelles...
Ah, et la diversité, l'éclectisme, surtout des esthétiques, c'est ça qui est intéressant. Alors toi qu'on connaissait Solitaire en production, tu signes cette fois ce single avec un autre producteur, Wielki, hein, on le prononce comme ça, hein, c'est ça. Qui est un Marseillais qui est installé à Paris. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui et comment se fait-il que tu sois désormais ouvert à la collab?
Écoute, c'est un super producteur déjà. On travaillait ensemble sur plusieurs projets en studio et puis il m'a présenté cette base de titre qui s'appelait Conquest à la base. C'était un titre et je lui dis putain, c'est génial, il faut absolument qu'on le retravaille, et on l'a retravaillé dans le côté monumental, et on l'a présenté en avant-première lors des shows de Monumental, et puis on l'a terminé ensemble. C'était une première collab vraiment très intéressante, très aussi passionnante, puisqu'il vient d'un univers différent. Il est plutôt sur un côté vraiment très techno, très mélodique. Moi je viens plutôt d'un côté house, et je trouve qu'on s'est bien retrouvé sur ce titre là Et il y en a d'autres qui sont en préparation. Voilà.
J'ai commencé l'interview en évoquant Monumental, hein, ta tournée de show à la fois son, lumière et de lieux, puisque ce sont des lieux que tu encenses, que tu envoûtes aussi avec une projection vidéo de mapping en ce cas très intéressante. On t'a vu au Mont-Saint-Michel, on t'a vu également au château de Vincennes. Chaque fois, une mise en scène splendide du patrimoine, sa sublimation aussi. Une nouvelle date qui s'annonce prochainement, je crois.
À Paris ? Plusieurs dates, dont une à Paris, qui sera voilà, entre mai et juin. La date est en train de se caler parce qu'on on est tous conscients en tout cas de ce qui se passe actuellement à l'international et cette tragédie qui se passe en Ukraine, et c'est un projet qui est porté avec le ministère de la Culture, etc. Donc on attend un petit peu que la situation aussi se calme pour pouvoir profiter pleinement de cet événement qui sera un énorme événement en plein cœur de Paris, et FG sera le premier au courant de la date. Et
évidemment, un show de fond sur fond de mélodique techno pour la présidence française de l'Union Européenne. Ça montre aussi que les regards ont changé sur notre scène musicale. Est-ce que tu as partout un bon accueil de Monumental, je veux dire autant du grand public que des politiques et des élus?
C'est un des messages que je porte à travers Monumental, c'est de continuer à démocratiser cette musique à travers un événement qui se situe en dehors des clubs. Et pour l'instant, c'est vrai que je suis assez content parce que le fait de pouvoir jouer de la musique électronique à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, par exemple, est quand même une certaine victoire pour cette musique. Et Monumental en tout cas contribue à ça, et je suis très fier du projet.
6 millions de Français qui ont vu son show le soir du Nouvel An. Michael Canitro qui s'apprête à sublimer à nouveau le patrimoine français dans les jardins du Palais. Oh. Oui, on peut le dire. Excusez-moi, je me demandais si tout à coup on faisait pas une gaffe. Cette fois le 17 mars prochain. Avant ça, on pourra savourer son dernier titre qu'on adore, Contemplation, produit avec Vilky. Merci en tous les cas, Michael.
Ça sera pas le 17 mars du coup.
Mais oui, pardon, excuse-moi. Oui.
Ça sera décalé effectivement à cause du contexte.
Voilà, de mai-juin. Excuse-moi, autant pour moi.
Mars 2018. Antoine Baduel reçoit Kylie Minogue.
Et ce soir, mon invité, c'est Kylie Minogue. Elle était hier soir à Paris au Café de la Danse pour sa série de concerts ultra intimistes dans les plus grandes villes du monde. Cette fois, Kylie Minogue a choisi Radio FG pour sa première interview promotionnelle en radio et en Europe. J'ai eu le plaisir de l'interviewer cet après-midi dans son hôtel parisien. Kylie nous dit tout de son nouvel album Golden. Et c'est mon invité de la Happy Hour sur Radio FG. Kylie Minogue, bonsoir. Good evening. On est totalement honoré de t'inviter ce soir sur FG. Si je te dis que pour chaque nouvel album, c'est tout un univers que tu essaies de créer, est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour Aphrodite, on avait un côté romantique, déesse de l'amour. Pour Kiss Me Once, ce côté très sensuel. Là, c'est quoi l'univers, la couleur que tu as voulu pour Golden?
I wanted it to be more based on emotion.
Je voulais avant tout quelque chose basé sur les émotions. Bien sûr que c'est toujours pop, c'est toujours dance. Et puis, comme souvent dans mes chansons, je parle d'amour. La quête d'amour, comme l'amour perdu, etc. Mais là, je crois que je voulais surtout que ce soit très personnel, du vécu, comme on dit. Donc, je ne suis pas très sûre de la couleur. J'ajouterais que cet album, c'est aussi sur l'acceptation de ce qu'a été ma vie, de ce que je ressens en ce moment et de ce que j'attends du futur.
Tu as donc fait ton retour musical avec les singles Dancing et Stop Me From Falling qui viennent de sortir en Angleterre hier, et on a immédiatement senti ce côté country qui est mélangé à une pop assez dance qui finalement te caractérise parfaitement. Cette dose de country, est-ce que c'est le virage que tu souhaitais donner à ta nouvelle musique, et pourquoi avoir choisi ces sonorités? C'est ta découverte de Nashville?
Non,
pour être honnête, c'est Jamie, mon conseiller musique. J'aurais aimé que ce soit mon idée, mais bon. Bref, il m'a dit très tôt sur le projet, quand t'es en studio, garde en tête la country et amuse-toi un peu avec ça. Donc je lui ai dit ok, mais je savais pas ce qu'il voulait dire. Un sample, une reprise, un arrangement différent. Bref, il a fallu presque 6 mois jusqu'au moment où je suis allée à Nashville, et c'est là que tout a pris un sens pour moi. C'est là qu'on a trouvé l'ADN de cet album. Je me suis beaucoup amusée à écrire différemment.
J'évoquais le terme de country music, même si ton album est pleinement pop. La country, c'est une musique qui est estampillée Made in America. Est-ce qu'il y a un équivalent d'ailleurs dans les grandes plaines australiennes?
Oui, il y a une grosse scène country en Australie. Mais comme c'est neuf pour moi, je ne serai pas celle qui pourra te donner plus d'infos. Pour être honnête avec toi, mon intérêt pour la musique country s'est résumé aux hits Dolly Parton, Kenny Rogers, Willie Nelson. Quand j'étais à Nashville, je baignais dedans. Je n'avais pas besoin de connaître les noms de ces artistes. Cette influence s'est faite presque par osmose, je dirais.
Et on peut le dire, Kylie, la magie de ta musique, c'est d'avoir des chansons qui irrémédiablement restent imprimées dans notre cerveau. Est-ce que c'est d'ailleurs un des piliers de ton travail, celui d'avoir un gimmick, une parole, un son qui soit catchy?
I think starting out
Je
pense que de commencer par travailler avec Stock Aitken Waterman, qui sont vraiment des maîtres de la pop musique, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur cette musique. Plus tôt même, quand j'avais de 8, 9 ans à 14, 15 ans, j'étais obsédée par la pop. Donc je pense que t'apprends assez tôt qu'il y a une accroche, quelque chose qui doit captiver le public. Après, c'est très ancré en moi, donc c'est dur de le verbaliser, de décrire ça.
Entre chacun de tes albums studio, tu as laissé à peu près 4 ans entre chaque sortie. C'est quoi ton mode de fonctionnement? Comment vient le déclic chez toi qui va te pousser à te plonger dans un nouveau gros projet que tu vas mettre en route?
C'est une bonne question. Because sometimes I do think,
parfois je me dis, est-ce que je peux encore faire ça? Ça prend du temps, ça prend... Mon Dieu, je ne sauve pas des vies. Je ne vais pas aller sur la Lune. Mais à mon niveau, ça demande du courage et de la détermination, du temps. Avoir les bonnes personnes autour de soi. Mais je pense que si j'y retourne toujours, c'est parce que c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui me passionne. J'aime que le résultat de ce travail soit la connexion avec les gens.
Connection with people.
Dans ton clip Dancing, toute l'esthétique est focalisée sur le passé, avec un look très léché, très années 70, marqué par une culture country revisitée, plus glamour, plus sexy. Comment tu as conçu ce clip? Tu interviens sur quels aspects d'ailleurs pour tout ce qui concerne les costumes, les couleurs, la mode?
I like to be across everything if possible.
J'aime être transversale. J'ai travaillé avec une réalisatrice qui s'appelle Sophie Miller et elle a travaillé sur mes clips. Des publicités aussi, mais surtout mes clips, depuis que j'en fais, donc il nous a fallu tout ce temps pour travailler ensemble. Et son histoire pour le titre Dancing, c'était Dolly Parton rencontre le jour des morts vivants. Et j'ai dit, ok, ça a l'air super. Elle a vraiment pris les thèmes de la chanson et n'a pas eu peur de les explorer, sans faire... C'est pas une chanson dépressive. Elle la tire vers le haut. J'ai grandi sur des tournages. Quand j'y suis, je sais ce que font les autres et j'adore ça.
Alors Kylie, parlons maintenant des concerts et tournées. Tu as surpris tout le monde avec cette mini-tournée avant la sortie de l'album. Pourquoi ces concerts dans des lieux très intimistes, alors que généralement, on attend Kylie Minogue dans les grandes salles?
Tu sais, dans mon album, tellement de ces chansons sont des histoires. On a tous pensé que ce serait une super opportunité de juste les présenter. Peu d'artifice, rien du tout. Juste les chansons sans rien pour vous distraire, sauf d'incroyables musiciens sur scène. C'était un peu un test pour nous, de présenter les chansons et d'avoir des retours. La première soirée à Londres, c'était assez incroyable pour moi. Ça fait des mois et des mois que je suis excitée à l'idée d'écouter ces chansons en live. J'adore les chanter.
I'm loving singing and performing them. Of course, we'll scale that up.
Bien sûr, ça va prendre de l'importance quand on arrivera aux plus grosses scènes, mais je pense que ça a été un éclairage pour nous tous de voir et ressentir la réaction du public. Ça a été super.
Voilà, c'était Kylie Minogue, la star de la scène pop dance, une icône qu'on aime beaucoup sur Radio FG, toujours très proche de l'électro de Radio FG, qu'elle a choisi pour sa première interview radio dans le cadre de la sortie de Dancing.
Mars 2018. Antoine Baduel reçoit Pedro Winter.
Le 31 mars, le label Headbanger emmené par Pedro Winter fêtera son 15e anniversaire au Grand Rex à Paris. Headbanger, c'est bien plus qu'un label, c'est une institution de la scène électro-française. Elle compte d'ailleurs dans son écurie des artistes comme Justice, Mister Oiseau, Sébastien Buzzy Pip, Breakboat Cassius ou encore Boston Bun. 15 ans donc et une faculté à donner le la, à définir un son français qui s'exporte très bien. Vous le retrouverez d'ailleurs ce son ce jeudi soir dans l'émission Club FG Live Session, spécial Headbanger et le boss du label. Pedro Winter est avec nous ce soir et il sera d'ailleurs ce soir avec nous dans le studio de Radio FG. Bonsoir Pedro, comment vas-tu?
Salut Antoine.
Eh bien alors mon ami, ça me fait très plaisir hein, parce que on dit souvent Pedro qu'Headbanger est la quintessence d'un son français hype et innovant, d'une électro haute couture tout en restant grand public ou j'allais dire aussi accessible. Est-ce que tu partages toi cette définition ou est-ce que selon toi Headbanger c'est autre chose?
Non, c'est une bonne définition. On a une situation assez confortable avec le label depuis une quinzaine d'années dans le paysage musical électronique français et international, à savoir effectivement faire des choses un peu plus accessibles, un peu plus pop, mais tout en gardant quand même un esprit avant-gardiste et alternatif, puisqu'on est un label indépendant. L'idée, c'est effectivement de fouiller, de creuser un peu ce que sera la musique de demain. Donc je prends tout ça avec joie.
Et alors du coup, quel live as-tu prévu pour ce soir dans les studios de Radio FG? On sera sur quelque chose de plutôt rétrospectif? Tu vas revenir sur les gros succès du label ou davantage un show tourné vers l'avenir avec les nouveautés du moment?
Exactement, c'est plutôt tourné vers l'avenir, tourné vers ce que je joue moi en club en ce moment. On a la chance d'avoir un paysage électronique super excitant. Donc c'est plutôt ce soir, c'est plutôt ambiance dance floor et tourné effectivement sur l'avenir, des choses comme des producteurs de Détroit ou Adji, de l'espagnol Eduardo de la Calle, voilà, plein des choses électroniques, modernes et fraîches que je vais vous passer ce soir sur FG.
Mais c'est normal, parce que en revanche, la rétrospective, elle sera le 31 mars, à la fin du mois, pour les 15 ans d'Headbanger, puisque tu vas les fêter bien entendu en grande pompe et au Grand Rex, en marge de l'anniversaire du Rex Club, avec un dispositif assez spécial. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pedro?
Alors, je peux vous dire qu'on travaille fort depuis quelques mois sur cette performance qui aura lieu donc le samedi 31 mars au Grand Rex. En fait, on a fait appel à un orchestre qui s'appelle l'Orchestre L'Amoureux pour rejouer les tubes et les titres d'Headbanger de ces 15 dernières années avec donc 15 musiciens sur scène orchestrés par Thomas Roussel, qui est un jeune chef d'orchestre super talentueux, qui a déjà bossé avec Jeff Mills par exemple sur des projets comme ça, des croisements de musique électronique et de musique classique. Et donc là il est en train de bosser à réécrire, à réadapter Monsieur Oiseau en musique classique. Donc je vous laisse imaginer le topo. Donc 1h15 de musique classique pour les fans d'Headbanger et les fans de musique électronique. Et pour ceux qui sont qui ont envie de s'exciter et envie de danser, on fera évidemment une petite after party au Rex Club. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire rentrer tout le monde, puisqu'il y a 3000 places dans le Grand Rex et que 1000 dans le Rex. Mais voilà, on compte sur l'énergie, la patience et l'engouement de tout le monde pour passer et pour fêter ces 15 anniversaires.
Et ça ne se refuse pas, surtout. Le label Headbanger à l'honneur ce soir sur Radio FG dans l'émission Club FG Live Session à partir de 23h. Vous retrouverez Pedro Winter en mix, alias Buzzy P. Vous pourrez d'ailleurs suivre la vidéo en direct sur la page Facebook Radio FG. Et les 15 ans du label se fêteront aussi au Grand Rex. Ça sera le 31 mars prochain avec, s'il vous plaît, un orchestre symphonique, 70 musiciens qui vont réinterpréter les grands succès du label Headbanger. Un concert suivi d'ailleurs d'un after au Rex Club. Vous l'avez compris, il faudra plutôt privilégier les préventes plutôt que les bousculades. Merci en tous les cas, Pedro. À tout à l'heure et en live. Et vraiment, merci à toi, parce que je tiens à le préciser, Pedro, d'abord, c'est un artiste qu'on adore, c'est aussi un ami, et puis surtout, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière à Radio FG. C'était en 1994. J'aurais peut-être pas dû donner la date, mais en tous les cas, c'était pour le plaisir de le dire. Merci en tous les cas, Pedro. Je t'embrasse fort.
Je vous embrasse.
Novembre 2021. Antoine Baduel reçoit Étienne de Crécy.
Et les amis, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le DJ producteur Étienne de Crécy. Il peut être considéré comme l'un des meilleurs albums de house au monde. En 96, sortait Pencil, des mains expertes de Philippe Zdar, qui formera plus tard le duo Cassius, et de celle du DJ producteur Étienne de Crécy. À eux deux, ils s'appelaient à l'époque Motor Bass, et leur album fait actuellement ses 25 ans, pièce maîtresse de la French Touch. Étienne de Crécy est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
C'est toujours un plaisir de t'accueillir, bienvenue à toi. Pencil, c'est une série de petits bijoux house, incarnés par exemple par le titre Les Ondes. Raconte-nous comment est né votre duo avec Philippe Zdar et cet album qui à l'époque faisait figure d'OVNI. Vous étiez deux jeunes hommes, plein de j'allais dire de talent et d'entrain, mais comment s'est passée la naissance, la genèse de cet album?
Alors la genèse de l'album, en fait, l'album il est venu après deux maxi. On avait sorti deux maxi Motor Bass en 92-93, je crois. Enfin, le premier, ça devait être 93. On avait fait deux maxi. En fait, le nom du groupe Motor Bass, il est venu du nom du premier maxi qui s'appelait Motor Bass EP. Et puis finalement, on a décidé de garder ce nom-là comme nom de groupe. Mais donc, en fait, pourquoi on a fait de la musique ensemble? C'est qu'on était coloc déjà, on était en colocation ensemble. On était tous les deux ingénieurs du son. On travaillait ensemble dans les studios. Et en fait, on a découvert ensemble la techno en 1992 dans une rave. Et assez rapidement, on a commencé à acheter des disques, des maxi. Et ensuite, comme on était ingénieur du son, on a compris comment se faisait cette musique, parce que c'est une musique un peu technique, on va dire, vu qu'on c'est pas une musique de virtuose, on apprend pas le piano pendant 15 ans. Il faut savoir se servir de machines, de sampleurs. Et donc, on avait un peu ce bagage-là, donc ça a été assez naturel pour nous de se mettre à faire de la musique.
Alors, quelques années avant de produire Pencil, vous aviez fréquenté évidemment vos premières rave parties, comme tout adolescent parisien qui se respecte à l'époque. Et à l'époque, l'électro, la house, était une toute petite scène confidentielle. Quel était votre état d'esprit en produisant Pencil? Il y avait l'ambition, j'imagine, de quelque part peut-être commencer à faire arriver cette musique ailleurs que dans les rêves, mais au contraire dans les clubs. Vous étiez motivé par quoi?
Non, alors en fait le truc c'est qu'effectivement on avait un peu ce truc là, il y avait la scène qui était très techno à l'époque, hein, c'était quand même très très techno. Oui. Et donc il y a un moment où la house est un peu arrivée dans les clubs, c'est-à-dire les amateurs. Nous, moi j'ai découvert la house après la techno, donc, et on s'est dit il y a un truc qui est pas mal, mais on n'avait pas vraiment d'ambition quand on a fait l'album, parce que de toute façon il y avait pas d'enjeu commercial à l'époque. C'était inimaginable en fait qu'un album de house music ou de musique électronique puisse tout d'un coup avoir une audience un peu plus grosse que l'audience confidentielle qu'on avait dans les magasins de disques et sur FG, parce que FG était effectivement sur le coup. Mais non, la seule ambition qu'on avait, nous, c'est de faire de la musique tripante.
Alors, à l'époque, vous sortiez évidemment dans les soirées techno, Acid House. En même temps, vous kiffiez aussi le hip-hop. Alors, comment tout ça s'est transformé dans vos têtes pour aboutir à cet album House qu'est Pencil?
Alors, comment ça s'est fait, c'est que nous, quand on a commencé à faire de la musique, justement, comme on était dans les studios et qu'on travaillait avec des gens, des rappeurs, les gens qui faisaient du hip-hop, donc on voyait qu'ils travaillaient avec des sampleurs. Et on a commencé, nous, à faire de la musique avec des sampleurs, ce qui était un peu original à l'époque, pour la musique électronique qui était très justement techno, donc c'était beaucoup de synthé, de boîte à rythme, et le fait nous d'utiliser des sampleurs, donc d'utiliser des samples, et on samplait dans les mêmes disques que les rappeurs qui ont utilisé les mêmes disques de jazz et de soul, et donc du coup effectivement il y avait ce côté original peut-être dans notre musique qui fait que ça a créé un engouement.
Étienne de Crécy, mon invité ce soir, qui a formé pendant il y a longtemps, j'allais dire, le duo Motorbass avec le regretté Philippe Sdar, et leur premier album sorti au cœur de la French Touch, Pencil, fête actuellement ses 25 ans. Il est donc réédité, et ça c'est génial Étienne, parce que à sa sortie, comme l'électro et les musiques électroniques étaient quand même un petit marché, malheureusement il était resté confidentiel, et c'est pour ça justement que tu as voulu cette réédition chez Headbanger.
En fait, donc c'est la réédition, effectivement, c'est Pedro qui est venu me voir en me disant ce serait bien que le disque ressorte. C'était les 25 ans, donc on s'est dit oui. Et après, j'ai profité de l'occasion. En fait, le disque n'était pas disponible sur les plateformes. Alors c'est super, là, il a été réédité en vinyle, donc c'est super pour les collectionneurs. Mais le fait qu'il soit pas disponible sur les plateformes, c'était vraiment dommage. Et donc on s'est arrangé et on a fait en sorte que ce soit disponible. Et
donc il y a à la fois l'objet en vinyle,
exclusivement
en vinyle, et ensuite dispo sur les plateformes.
Il est dispo sur toutes les plateformes et vos plateformes préférées.
Exactement. Alors au-delà de cette production, il y a aussi ton album Super Discount, dont on vient de s'écouter un extrait, qui fête, je crois, aussi ses 25 ans.
Qui fête aussi ses 25 ans. Et donc ça.
T'as été très prolifique, hein, il y a 25 ans.
À l'époque, j'ai eu un enfant la même année. En plus.
C'est
donc,
ça.
Si tu veux, ça fait.
Prolifique et fécond.
Voilà. Prolifique et fécond. Mais donc pour les 25 ans du Super Discount, je ressors une édition spéciale avec une pochette en or du coffret des 4 tennis. Super Discount là.
Exactement.
Donc voilà, ça va sortir. J'attends, c'est à l'usine pour le moment. J'attends de réceptionner et normalement ce sera en vente sur mon site. Et donc c'est les 4 10 inch qui forment le puzzle Super Discount. Simplement là, les pochettes sont en or.
Exactement. Autre quart de siècle aussi qu'on célèbre, hein, la Funk Mob, devenu ensuite le projet des Cassius, dont ressort aussi l'album. En gros, il faut retenir ce qu'il faut retenir de ces premiers albums de la French Touch, c'est qu'ils sont réédités. C'est une scène musicale aujourd'hui qui devient alors soit trentenaire, soit quart de siècle. Quel bilan tu fais, toi? Est-ce que le jeune Étienne de 1995 aurait pu imaginer qu'il se passerait tout ça à l'époque?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. On était loin de cette idée-là, en fait. C'était vraiment une musique. On faisait de la musique, c'était une sorte de hobby, en fait. Et on faisait des morceaux. Alors c'est assez marrant parce que vraiment on faisait des morceaux. Le seul enjeu c'était de faire de la musique qui était kiffante. On dit ah ouais là c'est kiffant, ouais c'est cool, c'est kiffant, vas-y on sort un maxi. Et il se trouve qu'il y avait une petite communauté, mais mondiale en fait, qui appréciait la musique kiffante. Par contre, non mais c'est vrai, et après le fait que tout d'un coup ça ait explosé comme ça, et c'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps, je crois que le premier signe, moi j'étais pas DJ à l'époque, je jouais pas DJ, et c'est tout d'un coup on nous a dit ah il faut aller faire les DJ. Moi je dis ah, mais moi je sais pas faire. Et là, à l'époque, je me souviens, c'était des francs. Et on m'avait dit, tiens, il y a 7000 francs pour faire un DJ set. Et j'ai fait, quoi? c'était un salaire mensuel, si tu veux.
Mais c'est clair.
Et là, tout d'un coup, j'ai appris à faire DJ hyper vite.
Et là, à ce prix-là, tout de suite, il n'y a pas de problème.
Et c'est effectivement ce truc-là où tout d'un coup, on a gagné notre vie avec ça, et plutôt bien, et c'est arrivé très vite. Et donc, ça, c'était vraiment la grosse surprise.
Exactement. Et ça, le virage, je pense que c'est début des années 90 et 93, 96, quand les clubs ont commencé à accueillir les DJ et cette musique. C'est-à-dire que tout à coup, elle passait des rêves et de la clandestinité au club. Et on pense tous très fort à l'époque au Queen, au Boy et évidemment au Palace.
Mais oui. Mais moi, mes premiers cachets, c'était en Angleterre. C'était les Anglais qui m'ont payé en premier.
D'accord. Donc là, c'était 7000 livres. C'était encore plus intéressant.
Ouais, non, mais ouais.
La house, les débuts de la French Touch sont évidemment le trait commun de tous ces tracks. Et on ne peut avoir évidemment qu'une pensée pour Philippe Sdar, lui aussi personnage central de ces aventures. Est-ce que l'esprit fraternel, le genre équipe de France que vous formiez à l'époque, tu as l'impression qu'il existe toujours aujourd'hui?
Ouais. Oui. Comment dire, tous les producteurs de notre génération ou les jeunes qui sont arrivés, il y a toujours. Alors je sais pas si c'est peut-être dû à la musique électronique parce que souvent les artistes se mettent un peu en arrière. Bon, moins maintenant, mais c'est vrai que c'était un. J'ai pas croisé des gens qui ont un ego problématique. Il y a des gens qui ont de l'ego, c'est normal. On est des artistes, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'exprimer. Mais par contre, j'ai rarement croisé de gens problématiques. À chaque fois, ça se passe bien et il y a une bonne ambiance.
J'aime bien l'expression ego problématique.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais elle est très bien.
D'accord.
Elle est très, très bien. Alors, en tous les cas, le duo Motorbass, un des pionniers et un des piliers de la French Touch, emmené à l'époque par Philippe Sdar et Étienne de Crécy, réédite donc son premier album, le génial Pencil, une édition limitée, hein, je le précise pour la partie vinyle chez Headbanger, et désormais à retrouver aussi sur toutes les plateformes. Vous l'avez compris, Étienne de Crécy, qui avait été à l'époque extrêmement dynamique, à cette époque, il y a 25 ans, il est toujours, mais cette époque, c'était quand même une année très spéciale, puisqu'à l'époque, il avait fait aussi le projet Super Discount, sorti il y a 25 ans, et qui existe également en édition vinyle.
Oui, qui existe en vinyle aussi. Ouais.
Exactement. Voilà, bah écoute, merci à toi Étienne en tous les cas.
Merci beaucoup de m'avoir
reçu. Toujours un plaisir de t'accueillir ici. Et puis j'espère à très bientôt pour nous parler de tout ça. J'espère qu'il y aura des petites soirées, des petites commémorations comme ce que tu as fait là récemment le week-end dernier.
Non, la commémoration moi je suis pas très nostalgique. Donc la commémoration là, on l'a fait vraiment une fois. Je pense pas qu'on recommencera à faire une soirée Star 90.
Oui, parce qu'il faut quand même préciser qu'il y avait Alex Goffer, Hubert Boombas donc de Cassius et DJ Falcon à tes côtés le week-end dernier au Petit Palace à Paris.
Voilà, mais il y a une soirée, je crois le 13 novembre au Sacré.
Et ben voilà.
All night long, je joue toute la nuit.
Et ben écoute, parfait. Ce sera le plaisir en tous les cas de te retrouver. Merci Étienne, toujours un plaisir de t'accueillir.
Décembre 2020. Antoine Baduel reçoit Kylie Minogue.
Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Kylie Minogue. Les gens veulent un moment de rêve et de lumière, disait récemment Kylie Minogue. Eh bien, la lumière en question, c'est elle, réfléchissant, d'une boule à facettes, car la chanteuse australienne nous propose un aller simple vers les années 80, les années disco, avec son nouvel album éponyme, un 15e album, 2 ans après l'opus Golden, et une artiste qui a toujours su se renouveler, Kylie Minogue. Et mon invitée ce soir sur FG, Kylie Minogue, bonsoir, bienvenue sur Radio FG.
Thank you so much, great to speak with you again.
Alors, ça fait vraiment plaisir. Tu fais partie de ces rares rayons de soleil de l'année 2020 avec ton nouvel album disco. L'aventure a commencé en 2019. Très vite, tu t'es dit que tu voulais un album purement disco, ou alors l'idée est venue progressivement?
I knew that I would be heading to the dance floor.
Je savais que je voulais m'orienter vers le dance floor, mais je n'ai su qu'au début 2020 que ce serait disco, que ce serait du cool disco, que ça prendrait cette direction-là. Parce que la disco, ce n'est pas seulement les années 70 où tout a évidemment commencé, mais cela s'est transformé à travers les décennies. Quand j'ai fait le Golden Tour en 2018, il y avait une section où on a recréé le studio 54. Et j'ai tellement adoré cette partie que j'ai su que mon prochain album serait sur le dance floor. Et c'est devenu disco.
Alors on sait que tu aimes la disco, c'est pas la première fois que ça inonde ta musique. Alors pourquoi un album 100% disco? Est-ce que pour toi c'est l'hédonisme de la disco, son côté solaire, positif, feel good, qui t'ont donné envie de produire cet album, ou d'abord et avant tout des choses purement musical, du genre des mélodies et des instruments?
I think initially it was the music, so you know, especially the melody and the iconography of disco. Of course, I never.
Je pense qu'au début c'était la musique, surtout les mélodies et l'iconographie du disco. Évidemment, je n'ai jamais été au studio 54, mais on peut tous imaginer y voyager et cela ressemble à un endroit fantastique. Puis je me suis plongé dans le monde du disco. Et le disco, c'est d'abord le scintillement et l'évasion. Mais en fait, il y a aussi un côté très sombre, donc le disco, c'est aussi échapper à ses problèmes, devenir quelqu'un d'autre ou devenir plus soi-même. Donc le disco, c'est tout un monde à explorer.
En 2001, tu sortais le titre Your Disco Needs You. Déjà cette relation si particulière à la disco. C'est d'ailleurs une chanson que tu reprends régulièrement dans tes tournées. Est-ce que c'est à chaque fois un moment très chaleureux avec le public? Comment tu l'expliques ça? Parce que vraiment, on sent que le public est en communion, en osmose avec toi dès que tu interprètes ce titre.
How can I explain it? I think when Your Disco Needs You was released, it was kind of a soft release. It didn't have the kind of the big push that a lot of singles have. And you're absolutely right.
Comment puis-je l'expliquer? Je pense que quand Your Disco Needs You est sorti, c'était plutôt une sortie discrète. Il n'y a pas eu toute la promotion que peuvent avoir certains singles. Et tu as absolument raison. C'est un grand moment dans mes shows. Parfois, je ne la mets pas dans mes shows car il faut aussi donner de l'espace à d'autres chansons. Mais le plus souvent, le public le scande et le chante. Ça fonctionne comme un numéro acoustique imprévu. Et oui, comme vous dites en français, c'est un moment de communion. C'est très spécial.
Alors, un petit mot sur la conception d'un album en 2020, parce qu'une partie de disco a été faite pendant la crise sanitaire. Sortir un album aussi solaire pendant une année aussi noire, ça a forcément changé son message initial, j'imagine. Est-ce que tu te dis que c'était la meilleure proposition musicale à faire face au virus? L'optimisme, le sourire et l'insouciance.
Yeah, so I started recording before coronavirus was anything to do with our lives, and that was my intention to make a disco album, to call it disco. And then when the world changed and everyone was in different forms of lockdown, and you know, in that dark and uncertain
j'ai commencé à enregistrer avant que le coronavirus n'ait quelque chose à voir avec nous. C'était déjà mon intention de faire un album disco qui s'appellerait Disco. Et quand le monde a changé et que tout le monde était dans une sorte de confinement et dans cette période sombre et incertaine, si j'avais été une autre artiste, peut-être que j'aurais été plus loin dans le côté sombre. Mais je pense que j'ai été plus inspiré par le fait de maintenir notre vitesse de croisière. Donc on a continué et quand l'album était fini, j'ai eu en effet un moment de doute où je n'étais pas sûr de savoir si c'était la bonne chose de sortir un album. Je ne voulais pas paraître insensible, mais les gens semblaient avoir vraiment envie de s'échapper un peu, envie de lumière et de joie. Et ça m'a donné la confiance pour avoir le feu vert et dire l'album est fini et oui, on va le sortir. Et je suis très touché par les retours.
Alors comme toujours, les titres de ton album se font remixer. J'ai en tête évidemment Purple Disco Machine qui a revisité le single Magic. Et d'ailleurs, on en connaît très bien la version puisque c'est celle qu'on joue sur FG qui est numéro 1 de la playlist en ce moment. Est-ce que tu écoutes ces DJ, toi, ces remix, qu'est-ce que tu en penses?
J'essaie,
c'est assez difficile de toujours connaître tout le monde, mais Purple Disco Machine est fantastique et j'adore regarder certaines de ses vidéos. C'est comme s'il avait un vaisseau spatial de différents claviers et différents instruments. Donc oui, j'ai adoré le remix, je l'ai totalement adoré.
En 2019, tu as sorti une anthologie, Step Back in Time. Un an seulement après, on te revoit avec un tout nouvel album. C'est une démarche assez rare. Est-ce que tu es une artiste hyperactive?
I like to work. I like to create. Yeah, it's actually been a busy 3 years. You're right.
J'adore travailler. J'adore créer. Oui, c'est vrai que j'ai été occupé ces 3 dernières années. Tu as raison. Faire l'anthologie Step Back in Time, c'est un très beau moment pour s'arrêter, réfléchir et célébrer toutes les chansons et tout ce qui compte pour moi, les différentes connexions avec les gens à travers le monde. Mais après un moment, oui, je suis totalement impatiente de faire quelque chose de nouveau. Je suis toujours curieuse, j'adore la musique, j'aime le fait que tu puisses aller en studio avec rien, travailler avec des gens qui me ressemblent, prendre du plaisir à le faire et en ressortir avec quelque chose que tu as créé et ensuite pouvoir le partager avec des gens dans le monde entier. C'est un job fantastique et je suis assez accro, oui.
Alors Kylie, il y a quelques jours, mon ami Mirwaze venait dans les studios de Radio FG dans cette émission pour nous parler de ses projets, de son album et on a parlé de toi. Il a évoqué une collaboration entre vous deux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est la première fois que tu bosses avec Mirwaze?
Mirwaze pourra t'en parler mieux que moi. C'était il y a quelques années, oui. Cela fait plusieurs années maintenant. Je sais qu'il prend son temps sur un album. Il prend son temps, tant mieux pour lui. J'ai travaillé avec lui sur un titre et je ne sais pas du tout ce qu'il se passe avec le projet.
Alors si on t'a vu ne serait-ce qu'une fois sur scène, on sait l'importance que ça a pour toi. Et surtout qu'on est fasciné quand on te voit sur scène. Est-ce que tu penses, Kylie, pouvoir proposer une tournée en 2021? Tu nous as déjà fait quelque chose d'incroyable avec une tournée en streaming. Est-ce que ça te manque le spectacle live? Qu'est-ce qui va se passer?
Thank you. I loved doing Infinite Disco. Obviously, it was we had no other.
Oh, merci.
Option.
J'ai adoré faire The Infinite Disco. Évidemment, nous n'avions pas d'autre option. Et il y a tellement d'artistes dans cette position. Nous voulons entrer en connexion avec les gens. Je pense que les shows en streaming ont leur place. Et je pense honnêtement que l'on va s'améliorer. Mais les performances live me manquent. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai envie de partir en tournée avec l'album Disco, avec bien sûr des versions disco de toutes les chansons. Et j'essaie toujours d'inclure aussi différentes surprises dans les shows. J'imagine que ce sera très émouvant. Je croise les doigts et j'espère que je pourrai y arriver.
Merci beaucoup, Kylie Minogue.